Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Ce matin, on va faire quelques petites choses un peu différentes. Je vais juste me faire un peu de place parce que me connaissant, je risque de bouger. Puis comme ça ne me tente pas de m'enfarger sur la scène, Julie, t'es mieux loter la guitare parce qu'il n'en restera pas grand-chose après mon message. Ensuite, j'aimerais ça demander à Pasteur Jean-Sébastien, à Simon et à Gilles de pogner leur chaise, venir s'asseoir en avant. Je le sais, c'est inusité. Non, pas de dos, non. Face à moi, s'il vous plaît. Mettez votre beau profil là, devant les... Oui, c'est ça. En biais, c'est mieux comme ça. Puis Gilles. Ah, vas-y. Ça va être plus facile à remettre après. Ensuite de ça... On va, ben justement, maintenant que vous avez mis vos chaises, là, vous allez vous lever 2 secondes. Venez ici. Puis on va se mettre ensemble, puis on va prier pour Stéphanie, pour Marie-Ève qui est malade. Puis on va prier. Stéphanie a une opération, je pense, demain.
Cancer.
Bon. Seigneur Dieu, on veut vraiment te prier pour Stéphanie, Seigneur Dieu, que tu puisses toucher son corps, Père. Que tu puisses guider la main du chirurgien demain, Seigneur Dieu, pour que ça soit rapide, que ça soit vite, bien fait, Seigneur Dieu, rapide. Puis idéalement, Père, j'aimerais ça qu'il rentre, qu'il ne trouve rien. Fait que s'il y a une tumeur qui est là, Père, fais-la disparaître. Papa, je te prie aussi pour Marie-Ève qui ne va pas très bien ces temps-ci. Je te prie de la bénir dans son corps, de la restaurer, puis de vraiment... vraiment la bénir dans son corps, dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Bon, gloire à Dieu. La raison que je voulais avoir les anciens, une 4 anciens devant comme ça, c'est parce que je veux qu'on se parle pendant mon message. Puis comme avec les spots qui sont dans ma face, je ne les vois pas, bien, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir me tourner et je vais pouvoir les voir. Je vais pouvoir vous voir. OK. J'aimerais ça qu'on tourne ce matin, s'il vous plaît, en commençant dans 1 roi au chapitre 18. 1 roi 18. On se met dans le contexte ce matin. Dans 1 roi 18, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Akab, Jézabel, ils dirigent la nation avec une main de fer. Ils dirigent la nation et vraiment, ils essaient de taire toute opposition à l'adoration de faux dieux. Akab et Jézabel, ils ont instauré toutes sortes d'adorations, toutes sortes de faux dieux, de fausses divinités. Et puis, ils vont essayer de taire toute opposition. Ils vont faire tuer les prophètes de l'Éternel. Il va y avoir une grande persécution à ceux qui sont zélés pour l'Éternel. À tel point que même les serviteurs, même ceux qui sont autour du roi, et on en voit un ici, Abdias, au verset 3 du chapitre 18 de 1 roi. Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Alors, Abdias, il est comme le bras droit de Akab, mais lui craint l'Éternel, et à tel point qu'il va prendre 100 de prophètes et il va les cacher. Il va les cacher pour pas qu'ils se fassent tuer. Il va leur donner du pain. Il va leur donner de l'eau, il va tout faire pour que ces prophètes-là, ces gens-là qui craignent l'Éternel, soient épargnés de la persécution, persécution telle que les gars se faisaient tuer littéralement. Tellement que Élie, qui n'est pas vraiment au courant de ça, il va penser qu'il reste lui seul comme prophète qui craint l'Éternel. Mais il y a Abdias qui en a mis 100. Plus tard, un peu plus loin dans le texte, on voit que Dieu dit, non, non, je m'en suis réservé 7000. Je m'en suis protégé 7000. Ils ne sont pas tous morts, ceux qui craignent l'Éternel. Tu n'es pas tout seul. Mais cette histoire-là, elle est remarquable. Pourquoi? Parce que Élie, alors que c'est l'un de ses plus grands succès, quand vous lisez l'histoire d'un roi 18, je ne la lirai pas toute parce qu'elle est intéressante, elle est fantastique, mais ça serait un peu long de la lire. Mais je vous encourage, par contre, chez vous, à prendre votre Bible et à la lire, cette histoire. En fait, lisez 17, 18, 19, trois chapitres remarquables. Élie, Akab cherche Élie pour le tuer. Akab, il veut tuer Élie. Et là, un moment donné, Akab, au début du chapitre 18, va dire à Abdias, « Écoute, moi, je vais aller par là-bas, toi, tu t'en vas par là-bas, on cherche Élie, puis on va le trouver. Hein? » Parce que Akab, lui, il veut vraiment finir avec Élie. Alors, Akab, verset 5, dit à Abdias, « Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux. » Bon, là, Akab, il dit, pour trouver de l'herbe, pour trouver... Effectivement, il y a une grosse famine depuis plusieurs années. Et là, il faut protéger tout. Il faut protéger là, le bétail. Mais pendant qu'Abdias est en route, verset 7, voici Élie le rencontrant. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon Seigneur Élie? » Et Élie lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » N'oubliez pas, il avait cherché un peu partout pour Élie, il ne l'avait pas trouvé. Et là, Abdias tombe, rencontre Élie. Puis là, Abdias, il est vraiment inquiet. Il est vraiment inquiet, pourquoi? Parce que, verset 9, Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? » Pourquoi? Parce qu'Élie dit, « Va dire à ton maître Akab que je suis là. » Mais là, Abdias, il ne fait pas confiance à ça. Il dit, « Non, il dit, écoute, il dit, il va venir, puis toi, là, l'Éternel va t'avoir pris, puis il va t'avoir amené ailleurs. Puis quand il va arriver, puis que tu ne seras plus là, ben, c'est ma vie qui va y passer. » Abdias, il a vraiment peur de Akab, et avec raison, Jézabel avait tué tous les prophètes, ou en tout cas, avait essayé de tous les tuer, et il n'aimait pas du tout ceux qui craignaient l'Éternel, et Abdias craignait l'Éternel. Fait qu'il était dans une position très, très délicate. Verset 18, Abdias va dire, « Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, j'irai informer Akab et qui ne te trouvera pas et qui me tuera. » On voit qu'il était vraiment inquiet. Il était vraiment, vraiment inquiet. Mais là, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qui se passe ici? Le drame qui va se produire, le succès d'Élie, un succès remarquable pour Élie, c'est qu'il va faire rassembler tout Israël autour de la montagne du Carmel. N'oubliez pas, il y a une sécheresse épouvantable. La montagne du Carmel, c'est comme un mont. Hein, ce n'est pas une énorme montagne, mais c'est un mont qui rentre, qui tombe dans la mer. Et là, Élie qui est là, il veut faire rassembler tout Israël autour de la montagne parce qu'il va y avoir un duel. Un duel entre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et Baal. Il veut faire un duel. Il dit, « Fais rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel » et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Alors, ça fait combien? Ça fait 850, ça? Je suis combien? Bon, 850 faux prophètes. Ils amènent-les tous. Amènent-les tous ici, puis moi, je vais être là. Puis il va y avoir un duel. Et là, le duel, je vais vous le lire. Akab envoya les messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple. N'oubliez pas, Israël est là. Okay. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Le peuple se taisait. Le peuple se taisait, et là, il va y avoir, eux autres ne le savent pas encore, il va y avoir un duel entre Baal et l'Éternel. Et Élie a fait venir tout Israël pour démontrer la puissance de l'Éternel versus la puissance des Baals. Et voilà les termes du défi. Que l'on donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Alors, ils donnent, il est très, très, très généreux, très, hein, il est courtois. Premier choix, prenez le meilleur des deux taureaux, prenez-le, choisissez-en un des deux, hein, et, qu'il les coupe par morceaux, qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu, et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Il va y avoir un duel. Tout le monde aime ça, les duels? Hein? Ça, c'était du combat extrême par excellence. Hein? Il y avait l'Éternel. Il va y avoir deux autels, du bois, le taureau coupé en morceaux, le bois, le taureau. Et là, les prophètes de Baal, ils commencent leurs imprécations. Là, ils commencent à prier que le Baal réponde par le feu et qu'il consomme le sacrifice. Il ne fallait pas qu'ils mettent le feu eux-mêmes. Et là, Élie va les narguer. Parce qu'il crie, il crie, puis là, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Et comme c'était la coutume des prophètes de Baal, ils vont même se couper avec du sang, ils vont se mettre à saigner pour que Baal réponde puis qu'il vienne consumer le taureau qui avait été préparé. Il n'y a rien qui se passe. Un peu plus tard, Élie, tranquillement, va préparer un autel. Il va ramasser les pierres d'un autel à l'Éternel qui avait été renversé. Il va reconstruire l'autel, prendre les pierres, les 12 pierres pour les 12 tribus. Il va prendre une pierre, il va prendre une autre pierre. Et là, il va dire au gars, il dit, allez chercher de l'eau. Ça, c'était du bois sec. Là. Il a mis du bois sec. Renversé, il n'y a pas assez d'eau. Rajoutez de l'eau. Rajoutez de l'eau. Il a prié l'Éternel. Et là, le taureau a été consumé. Le bois a été consumé. Les pierres ont été consumées. L'eau a été évaporée. Tout a été consumé. Et là, la réaction du peuple, un peu plus bas. Au verset 30, merci. Hein? 39. Et quand tout le peuple vit seul, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ensuite, verset 40, saisissez les prophètes de Baal, et leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent et il les égorgea. Gros succès. Gros succès. Le duel s'est fait. L'Éternel a gagné sans aucune équivoque. Puis là, on croirait que, normalement, dans notre passé, notre pensée hollywoodienne, si on veut, le héros a gagné. Les prophètes ont été défaits. Et là, il y a-tu 850 gars, là? En tout cas, ils les ont attrapés, ils les ont égorgés. 850, tout seul. Chapitre suivant. Verset 1 du chapitre 19, Achab apporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux mettraient dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie que ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Alors la femme n'est pas contente. Ses prophètes sont morts. Fait qu'elle envoie une lettre de menace à Élie. Ça fait des années qu'il le cherche. Là. Okay. Puis en plus de ça, il y a un taureau qui vient d'être consumé par le feu devant tout le monde, tout Israël. Elle y envoie une lettre de menace, puis lui, il détale. Il détale comme un lièvre. Il part à courir, il court. Après ça, vous lirez chapitre 19, c'est remarquable. Il court, après ça, il court un autre, je pense, c'est quasiment 200 000 qui va courir après ça. Il va aller jusqu'à Horeb, en bas de la péninsule du Sinaï. Il va courir là, puis là, il est épuisé. Et là, il marche, là, il s'écroule, puis il va dire à Dieu. Il va dire. Attends un petit peu. Au verset. Comment? Merci. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Il est découragé, le gars, là. Il est découragé. Il veut mourir. Il pense qu'il est tout seul. Il pense que tout est fini. Et il vient d'avoir une victoire. Il vient d'avoir une victoire, l'Éternel, c'est... Hey, combien d'entre nous n'aimerait pas ça que Dieu se manifeste comme ça, qu'il fasse brûler devant tout le monde, hein, qu'il manifeste sa puissance et sa gloire devant tout le peuple? C'est fantastique. Pour décider qui c'est qui a raison. C'est remarquable. Mais Élie est découragé pareil. À un moment donné, il est même découragé jusqu'à vouloir en mourir. Ah, oh, Seigneur, c'est fini, je vais en finir, je vais mourir. Là. Tu réalises-tu? Là, il y a un ange qui apparaît, il leur met debout, il donne à manger un gâteau aux anges, et puis il part à courir, puis il repart à courir, puis là, il est plein de force encore. Il a été révigoré, Dieu l'a ramené, l'a relevé. Puis il n'a plus voir la gloire de l'Éternel. Il n'a plus voir la gloire de l'Éternel. Vous savez, ça, c'est chacun de nous, puis nous, les anciens, pasteurs, on est amené souvent à voir la gloire de Dieu, puis les croyants aussi, hein, pas juste les anciens puis les pasteurs, les croyants, on prie, on marche avec Dieu, on se donne pour Dieu, on voit les succès, on voit les défaites. Puis quand les défaites arrivent, c'est très décourageant. C'est très décourageant, et combien de fois, personnellement, j'ai dit de la... Ça sert à rien. Ce que Élie verbalise, là, je suis content que dans les Écritures, il y ait des hommes de Dieu comme lui qui ont verbalisé des choses comme ça, parce que c'est exactement comment est-ce qu'on se sent quand on est découragé. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, il n'y avait aucun repos d'esprit. Il ne trouvait pas son chum titre, il n'y avait pas de repos d'esprit, il est parti pour la Macédoine, alors même que Dieu avait ouvert une porte pour l'Évangile. Dieu avait ouvert une porte pour l'Évangile, puis il était découragé, puis il est parti. Même au lendemain d'une victoire pour Élie, au lendemain d'un réveil, l'apôtre Paul part découragé. Oui, mais Patrice, ça n'a pas de bon sens que des hommes de Dieu soient découragés, mais c'est la réalité. Vous savez, la Bible, pourquoi une des raisons que je sais que la Bible est vraie, c'est que la Bible ne nous peint pas les choses en rose. La Bible nous montre les choses comme c'est. Puis la vie, c'est tough, la vie. La vie, c'est difficile, la vie. Il n'y a rien de rose, il n'y a rien de facile dans la vie. Encore moins dans l'Église, parce que dans l'Église, vous savez, quand on travaille, là, à job, quand on travaille dans une shop, quand on travaille dans un restaurant, quand on travaille dans une école, quand on travaille sur une ligne de montage, c'est tough. Il y a les relations interpersonnelles, c'est difficile. Des fois, ça ne marche pas comme on veut. Le boss est là. Le boss te pousse dans le dos. Tu dis, oui, mais je pensais que lui, il te répond, écoute, tu n'es pas payé pour penser, tu es payé pour travailler. Tu es comme, tu sais, ça ne va pas bien, là, souvent. Mais dans l'Église, là, y a non seulement les relations interpersonnelles sont fatigantes, mais c'est quoi que les Écritures disent? Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on se bat, c'est contre les principautés dans les lieux célestes. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, alors même qu'on a à se battre, à avoir des frictions entre frères et sœurs dans l'Église, notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Mais c'est encourageant, parce que Dieu a la puissance de vaincre toutes ces principautés-là. C'est là qu'on voit la puissance, puis la majesté, puis la grandeur de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est important de réaliser, par exemple. Puis c'est là que nous, on joue un rôle en tant qu'ancien, en tant que pasteur. Puis c'est là que vous, vous jouez un rôle en tant que membre de l'Église. C'est-à-dire, hey, c'est pas contre les principautés, c'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les principautés. On a à prier, on a à, comme on a vu aujourd'hui dans la chanson, à persévérer, à marcher, allant de l'avant, pas après pas, obstacle après obstacle, aller de l'avant, pas se laisser abattre, pas se laisser atterrir, pas se laisser amoindrir, pas se laisser abaisser, abaisser par nos propres pensées, abaisser par la projection qu'on a des autres, abaisser par les propos que les autres peuvent nous dire. On se blesse les uns les autres. Moi, j'en ai blessé, vous en avez blessé, on doit se demander pardon. La scène, là, la table, la Sainte-Seine qu'on a pris aujourd'hui, c'est l'endroit par excellence de se rappeler le pardon de Christ, mais aussi comment est-ce qu'on est un corps, comment on doit marcher le même pas, comment on doit s'aimer, comment on doit s'accueillir, comment on doit se chérir, comment on doit marcher ensemble, comment on doit s'aimer, comment on doit se pardonner les uns les autres, comment quand quelqu'un a été blessé, tu vas le voir, tu dis « Écoute, je t'ai blessé, je te demande pardon. » On doit se restaurer. Et ça, c'est spirituel. Ça a un impact direct sur notre marche. Ça a un impact direct sur la réalité spirituelle, sur ce qui se passe dans les lieux célestes. Ça a un impact direct. On ne peut pas, quand on marche avec Dieu, vous savez, en Amérique du Nord, je pense que c'est une des tristesses que je vois en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis, au Canada, au Québec, peut-être même en Occident, en Europe aussi. L'Église évangélique, pour plusieurs, pas pour tout le monde, je ne pense pas que c'est pour tout le monde ici non plus, marcher avec Dieu, c'est devenu comme un hobby. Il y en a que c'est les chars. Il y en a que c'est... Je ne sais pas, moi, la musique, la peinture, les films. Moi, je suis un cinéphile, j'aime les films. Il y en a qui c'est les timbres. T'sais, on passe du temps avec nos hobbies, puis une fois ou deux par semaine, ben oui, il y a l'Église. Il y a l'Église qui est un hobby parmi tant d'autres. Mais Dieu, ce n'est pas un hobby. Dieu, c'est celui qui nous aime. Dieu, c'est Christ, c'est celui qui est mort pour nous. Il est au centre de notre vie et il veut cette place centrale dans notre vie, tellement il nous aime, tellement... Il n'y aurait jamais pu confronter Achab en disant « Me voici » s'il n'avait pas été persuadé que Dieu était pour lui, même si tout le monde était contre lui. Il n'aurait pas pu faire ça. Il n'aurait pas pu affronter les prophètes de Baal si pour lui, Dieu avait été un hobby. C'est pour ça que le rôle de pasteur, le rôle d'ancien est si central. Parce qu'on doit, puis je vous parle, puis je me parle, parce qu'on est les premiers pour qui Dieu ne doit pas être un hobby. Parce qu'on montre l'exemple, Hébreux 13, 7, Hébreux 13, 17, au peuple, qui pour eux non plus, ça ne doit pas être un hobby. Vous savez, la réforme, ce qui a été remarquable de la réforme, ça n'a pas été que il n'y a plus de prêtrise. Vous savez, la réforme avec Luther, Calvin, quand l'Église catholique a un peu pris la débâcle dans plusieurs pays, puis que là, on a réalisé l'importance du peuple de Dieu dans l'Église. On n'a pas juste ôté les prêtres. On a fait de tout le monde des prêtres. Et donc, tout le monde devait se lever maintenant pour servir puis marcher avec Dieu. Il n'y avait pas un clergé qui marchait, puis les autres qui étaient passifs dans leur vie chrétienne. Quand Julie, tantôt, a parlé de la vision... de ce que Dieu avait mis dans le cœur de tout le monde, c'est parce que chacun d'entre nous, Dieu nous a appelés. On a une vocation. On a une vocation que Dieu nous adresse en tant que pasteur, en tant qu'ancien, en tant que chrétien, en tant que mari, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, en tant que parent, dans tous les domaines, en tant que leader, en tant que je ne sais pas moi, chef d'entreprise, en tant qu'ouvrier dans une entreprise. On a une vocation dans tous les mandats de notre vie, soit dans l'Église, dans le travail, en tant que citoyen, puis dans la famille. On a des choses à faire. On doit manifester Dieu. On doit être un phare qui est clair dans tous les domaines de notre vie. Puis on doit avoir Dieu comme centre. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul va dire, chapitre 12, 11. On va retourner là. C'est trop beau. Je demanderai à Julie, tu voulais-tu le lire, s'il te plaît? Très fort. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Ça, ce n'est pas vous dire qu'on est paresseux. Non, non, non. C'est quand ça va relativement bien qu'on peut s'encourager de dire, « Ben oui, je dois être zélé. Je dois être zélé. » Et Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et ardeur dans notre zèle. Dieu n'est pas injuste pour oublier ça. Chacun d'entre nous, on se tient devant Dieu. Puis si on a fait quelque chose pour Dieu, si on a pu bénir un frère, une sœur, une église, si on a pu bénir des gens autour de nous et qu'ils nous disent merci, waouh, fantastique. Mais s'ils ne nous disent pas merci, premièrement, c'est pour Dieu que je le fais. Dieu va me donner la récompense. Dieu va me remettre ça. Dieu va me remercier en temps et lieu. Tant mieux si les hommes me disent merci. Gloire à Dieu. Je suis content que quelqu'un me dise merci. Merci pour un message. Merci, gloire à Dieu. Merci, son message m'a touché. Merci, gloire à Dieu. Je suis content que quelqu'un me le dise. Mais si quelqu'un ne me le dit pas, ce n'est pas grave. Je suis content pareil parce que gloire à Dieu. Dieu est ma récompense. Ma récompense est au ciel. Même si les gens m'oublient, même si les gens me laissent pour compte, moi, si j'ai marché avec Dieu, je l'ai fait pour Dieu, ma récompense est au ciel. Où ne peut pas atteindre la rue et le teigne? Mais si on est pris dans les relations interpersonnelles, puis si on est blessé par ça, c'est nous qui est le pire, parce que ce qui se passe, et l'ennemi le sait, l'ennemi vient, il prend ça, là, ces sentiments-là, là, littéralement. Là. Je ne sais pas si je ne veux pas les plonger, mais en fait, il plug ça dans nos veines, là, puis il énergise l'amertume. Vous savez, c'est quoi l'amertume? L'amertume, là, c'est ce sentiment que tu... de ressentiment que tu en veux à quelqu'un parce que la personne aurait dû faire quelque chose, mais elle ne l'a pas fait. Puis tout ça fait qu'à un moment donné, on se dit, là, je note d'abord, moi, là, c'est trop dur. Puis je suis le premier, puis le message, pourquoi je voulais que vous soyez ici? Parce que le message, je me le dis à moi, je me le dis à vous, je le dis au peuple, mais parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand on sert les gens, c'est le service le plus ingrat. Si on s'attend du remerciement, le remerciement vient premièrement de Dieu. Et quand les autres viennent te dire merci, ça, c'est juste la cerise sur le Sunday de dire, ah ben gloire, merci. Il y a eu une reconnaissance terrestre, mais c'est parfait même s'il y en a pas. Il faut se le rappeler. Il faut se le rappeler. Parce que sinon, on va se décourager. On va se décourager. Puis l'ennemi va avoir plugué l'amertume dans nos veines. Puis on va tranquillement arrêter de battre, arrêter de combattre. Puis l'ennemi va nous vaincre sans avoir rien fait. Quelqu'un va passer, il ne veut pas nous regarder, il ne m'a pas dit bonjour. Mais pourquoi il ne m'a pas dit bonjour? Lui? Puis là, on va s'épuiser. Puis l'œuvre de Dieu va s'étioler. Puis finalement, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? C'est ça, hein? C'est ça le but de l'ennemi. L'ennemi, c'est pas... On n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Pourquoi? Plein de fois dans les Écritures, on voit le combat, mais le combat, souvent, il est invisible. Pour ça, c'est pas contre la chair et le sang. Contre les principautés dans les lieux célestes, ils font tout pour arrêter le peuple de Dieu. Parce qu'on est une armée. Une vraie armée. On mène un vrai combat. Et si on avait les yeux pour voir, vous avez vu les films de guerre avec tous les démembrements, puis le sang, puis les giclées à terre, comment ça peut être? Surtout avec Hollywood ces temps-ci, qui on dirait qu'ils aiment ça mettre des atrocités à l'écran. Mais si on avait les yeux pour voir ce qui se passe autour de nous autres, ça serait bien pire. Parce que le combat est bien plus violent que ça. Le combat, le vrai combat, je ne parle pas des combats terrestres, là. Le vrai combat spirituel, il est bien plus violent, puis l'enjeu est éternel, il n'est pas juste terrestre. Il y a des vraies vies qui tombent dans l'éternité, puis il y a des vraies vies qui s'en vont en enfer pour l'éternité, puis il y a des vraies vies qui sont massacrées. Puis on a un rôle à jouer, chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer dans ça. Puis si on oublie, on perd de vue ça. Si on perd de vue ça, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? C'est pour ça qu'on a un rôle à jouer. C'est pour ça que, mes amis, ce matin, le message que je prêche, je ne vous le prêche pas à vous, je vous le prêche pas seulement, en tout cas, je me le prêche à moi premièrement, pour me rappeler que ce n'est pas contre la chair et la sang. Me rappeler ce combat-là d'Élie. Écoute, Baal était incapable. Baal est incapable de faire quoi que ce soit. C'est l'Éternel qui est capable. L'ennemi est important. La seule puissance qu'il a, c'est de nous faire croire qu'il est capable de faire quelque chose. Tellement qu'on est prêt à se couper, à faire plein d'affaires, à passer pour des fous, à crier. Puis Élie est là, il dit peut-être, il peut crier plus fort, peut-être qu'il dort. Les prophètes de Baal sont là, ils crient plus fort, ils se coupent, ils se percent. Ils veulent réveiller Baal qui est parti en vacances, je ne sais pas quoi. Vous le lirez dans le roi 18. Mais Satan est important. La seule puissance qu'il y a, c'est de nous faire croire qu'il y a quelque chose. C'est un séducteur, c'est un menteur. Quelqu'un qui est important, là, la seule manière qu'il peut avoir quelque chose, c'est en mentant, en faisant croire plein de choses. Laissons-nous pas berner par l'ennemi de nos âmes. Laissons-nous pas avoir. On a un Dieu qui est aux cieux, qui est dans les cieux, qui nous rend plus que vainqueurs, qui nous donne toute une vocation extraordinaire, qui est pour nous. Alors, dans Ecclésiaste 9:10, l'auteur de l'Ecclésiaste dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Faisons-le avec force pour que justement, on n'a pas à rougir. Mais qu'on soit assis, couché dans notre lit, là, il nous reste quelques respirations à faire avant de passer l'autre bord, puis que nos yeux s'ouvrent à la réalité éternelle. Quand mes yeux vont se fermer pour mon dernier regard terrestre, ils vont s'ouvrir sur une éternité de vision extraordinaire. Mais là, je vais voir la réalité comme elle est réellement. Est-ce que devant Dieu, je veux dire, est-ce que je vais avoir à rougir ou est-ce que je vais dire, j'ai fait de mon possible, j'ai fait de mon mieux. Ce que j'ai trouvé à faire, j'essaie de le faire avec force. Pas tout le temps, c'est vrai. Des fois, on est découragé. Des fois, il y a un réveil, puis on part pour la Macédoine. Mais normalement, là, autant que je peux, ce que ma main trouve à faire, j'essaie de le faire avec force. Amen. On s'encourage ensemble. Amen. Père, Seigneur Dieu, je te rends grâce, Père. Tu es un Dieu qui vaut la peine d'être servi, Seigneur Dieu. Tu es un Dieu qui t'a tout donné. Jésus-Christ t'a tout donné à la croix. T'a tout donné à la croix. Père. Père, merci. Merci de nous montrer l'enjeu, Père. Merci de nous rappeler l'enjeu. Merci de nous montrer que nos travails, c'est important. Notre famille, c'est important. La nation, c'est important. L'Église, c'est important. Mais l'enjeu final, Papa, c'est des âmes qui vont passer l'éternité loin de toi. Puis tu veux qu'on soit dans la mêlée pour amener une contribution pour que peut-être quelques-uns soient sauvés. Dans ton prix, sinon je te rends grâce, Papa, pour ce que tu nous as donné, Seigneur, puis ce que tu nous demandes de faire. Dans ton prix, sinon, Seigneur Jésus. Amen.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.grâceetvérité.org.